France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est notre dernier jour dans le département du Loiret. Les épisodes précédents, bien sûr, sont disponibles en podcast. Et aujourd'hui, encore deux initiatives qui méritent toute la lumière. D'abord, une association qui nettoie les rives de la Loire. Elle organise des marches propres avec des bénévoles qui rencontrent un très gros succès. Et ensuite, on parle du bio à bout. En voilà une belle allitération, le bio à bout. Bout, c'est une commune du Loiret, pas loin d'Orléans. L'agriculture biologique autour de Bout vient de trouver un précieux débouché avec la création d'une conserverie. L'ambition est de faire des conserves pour offrir des revenus supplémentaires aux producteurs et productrices et de lutter au passage contre le gaspillage. C'est bien beau, c'est beau qu'au bio, à bout. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
C'est l'histoire de trois jeunes, la vingtaine, qui ont voulu se lancer dans des ramassages de déchets autour de chez eux à Orléans. Nettoyer les rives de la Loire, notamment, de déchets plastiques. Ils ont créé une association en 2020, entre deux confinements, pour proposer au grand public de ramasser avec eux. Et leur initiative, depuis, a pris une très belle ampleur. L'association s'appelle Objectif Zéro Plastique. Bonjour Éloine Sivillier.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue dans les carnets, vous êtes l'un des trois fondateurs de cette ONG. Alors depuis 4 ans, Objectif Zéro Plastique a organisé près de 500 marches qui ont rassemblé quelques 10 000 personnes au total. C'est franchement pas mal. Comment organisez-vous ces opérations de ramassage? Comment ça se passe?
C'est vraiment avec les réseaux sociaux qu'on a commencé à communiquer, à inviter chacune des personnes qui étaient intéressées à venir participer à nos ramassages, à nos marches propres. Au début, c'était quelques ramassages entre les deux confinements où on invitait chacun dans sa marche journalière à ramasser quelques déchets. Et puis, à la suite, qu'on a pu de nouveau faire des rassemblements, on a commencé à réinviter tout le monde à faire ces ramassages ensemble. Et en mars 2021, on rassemblait déjà 650 personnes sur un même week-end pour ramasser dans chacune des communes de la métropole d'Orléans, les 27 communes, des déchets sur le même temps.
Alors, votre association est née à Orléans. Elle a des antennes ailleurs aujourd'hui?
Oui, on a aussi des groupes à Paris, à Clermont-Ferrand. On a eu aussi des groupes à Bordeaux, Nice. Puis on a des groupes qui sont ouverts dans d'autres pays. On est en association, on est affilié à plein d'ONG, notamment sur le continent africain.
Que deviennent les déchets que vous ramassez?
On les trie, on comptabilise aussi les types de déchets qu'on ramasse. On participe notamment à des audits où on regarde quelles sont les marques les plus présentes, notamment dans les déchets qu'on retrouve dans la nature. Et on les trie, on les amène dans des déchetteries. Voilà, on refait le travail qui a été loupé à un moment de l'étape du cycle de vie du plastique. Et ça nous touche directement avec la Loire, qui est le fleuve sauvage, le seul fleuve sauvage de la France. On le voit chaque semaine, on retourne sur les mêmes rives, les mêmes endroits, l'île Charlemagne notamment, où chaque fois les mêmes déchets reviennent, sont déposés par le fleuve, et donc ce combat est sans cesse.
Vous disiez que vous repérez les marques des déchets en question et ensuite vous alertez la marque?
On participe à un audit mondial sur les ramassages où l'idée c'est de comptabiliser dans le monde quelles sont les typologies de déchets et de marques qu'on retrouve le plus en effet en termes de déchets. Donc on retrouve beaucoup de marques de canettes, de bouteilles principalement.
Alors effectivement, si je dis que votre association a bien grandi, c'est aussi parce que vous participez à des négociations internationales sur la pollution plastique en tant qu'observateur accrédité. Et cela a mené Objectif Zéro Plastique au Canada et en Corée du Sud en 2024. Quelle est votre impression générale sur ces négociations ?
En effet, on y va avec l'objectif que dans le traité, il y ait une impulsion pour la réduction de la production des plastiques. C'est extrêmement important. On discute notamment avec beaucoup de délégations pour porter cette ambition. Il y a déjà eu là à Busan, cinquième tour des négociations, plus d'une centaine de pays, dont la France, qui se sont rassemblés pour porter la voix d'une réduction de la production dans ce traité. Donc actuellement, il y a des estimations d'un peu plus de 460 millions de tonnes de production de plastique chaque année. Ça équivaut en poids humain à 8 milliards de personnes, donc le nombre de personnes qu'il y a sur la planète, soit un jumeau plastique produit par an, par personne. Oui. Donc c'est assez marquant. Actuellement, il faut déconstruire la croyance que le recyclage va permettre de régler la situation. Bien au contraire, en France, qui est l'un des systèmes les plus fonctionnels sur le retraitement des déchets, on ne dépasse pas la barre des 20% des déchets recyclés, des plastiques recyclés. Donc le l'élément même qui nous permettra de réduire les déchets dans la nature, c'est la réduction de la production des plastiques.
Et pour ce qui est de votre état d'esprit, comment sortez-vous à chaque fois de ces négociations? Est-ce que vous avez l'impression que tout cela va dans le bon sens ou pas du tout, sincèrement?
C'est difficile parce qu'on voit qu'il y a des blocages au niveau des négociations. C'est pas pour rien là qu'il n'y a pas pu avoir de traité à Busan en décembre dernier. Il faut rappeler que le plastique, il est produit à partir de ressources pétrochimiques. Donc c'est beaucoup de pays pétroliers et qui produisent du charbon qui sont réfractaires à ce traité. Donc ce sont des enjeux économiques extrêmement importants. Donc on le voit, les négociations semblent bien avancer chaque semaine et puis dans les derniers jours, on voit les blocages. Maintenant, l'importance du traité est telle que le combat reste nous motive et reste extrêmement important pour qu'on ait cette réduction de la production qui soit mise dans ce traité. Ça permettra d'influencer demain les décisions qui seront portées dans tous les pays du monde entier afin qu'il n'y ait pas d'augmentation comme cela est actuellement la prévision. On prévoit quand même une augmentation par 3 de la production actuelle du plastique d'ici 2060.
Quels sont les projets futurs de votre association ?
On travaille actuellement sur la construction d'un laboratoire portable pour étudier le taux de contamination des plastiques dans nos cours d'eau. On veut commencer notamment avec la Loire, à côté de chez nous, à Orléans, et puis regarder aussi quel est le taux de pollution aux nanoplastiques, microplastiques qu'il peut y avoir dans d'autres cours d'eau de notre département. On est aussi en train d'organiser des ramassages, on est en train de le prévoir prochainement dans l'année. Pour aller nettoyer les rives, les cours d'eau de notre département, donc la Loire, le Loiret, mais aussi le canal d'Orléans, de Briard, du Loing, au nord-est du département. Voilà, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, on continue à préserver, à démontrer, à sensibiliser, démontrer l'impact du plastique et la contamination qu'il peut y avoir, même dans des cours d'eau qui sont dits encore sauvages.
Voilà, on trouvera sur votre site, sur vos réseaux sociaux, toutes les infos pratiques pour participer à ces marches de ramassage de déchets. Association Objectif Zéro Plastique à Orléans. Merci beaucoup, Éloine Sévillier.
Merci beaucoup.
Et bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
J'ouvre la boîte mail des carnets de campagne. Nathalie nous a écrit ce message. Puisque votre émission s'intéresse au Loiret, je voudrais mettre en valeur l'association Les Tournesols à Main-sur-Loire. Je suis psychothérapeute, précise cette auditrice, et je ramène de Montréal un projet de prévention auprès des 12-25 ans qui ont eu un épisode de dépression ou une autre pathologie de santé mentale et d'autres jeunes sans problématique. C'est un programme inclusif où les plus forts aident les plus fragiles et ensemble, avec un artiste, nous créons une performance artistique. L'accès est gratuit, hormis l'adhésion à notre association, et nous partons dans l'aventure pour 19 semaines. En ce moment, c'est un atelier cirque. Nous accueillons parmi les 9 participants 2 adolescents autistes de 15 et 19 ans, et nous sommes en passe de démarrer un atelier impro-théâtre avec des ados qui sortent d'hospitalisation et d'autres ados qui vont bien et qui veulent développer leur empathie. L'association s'appelle Les Tournesols, en 2 mots. Elle est à Main-sur-Loire, dans le Loiret. Et puis un autre message envoyé par Anne. « Vous devriez vous intéresser au vélo Pipop », écrit cette auditrice. « Un vélo à assistance sans batterie électrique inventé et développé à Orléans. Ce vélo récupère votre énergie quand vous pédalez facilement, au freinage et dans les descentes, pour vous restituer cette énergie quand vous en avez besoin, au démarrage et dans les montées. Le mécanisme repose sur une dynamo améliorée grâce à des supercondensateurs sans lithium. » Ce vélo s'appelle Pipop et vous trouverez un lien vers leur site internet à la page de l'émission.
France Inter. Carnet de campagne.
Nous voici à Bou, à une dizaine de kilomètres d'Orléans. Bou s'écrit B-O-U et ses habitants sont appelés les Boumiens et les Boumiennes, et non pas les Boumeurs. Cette petite commune nous intéresse car une conserverie vient de s'y installer. Un endroit où l'on produit des soupes, des confitures, des sauces, des compotes pour lutter contre le gaspillage et aussi pour soutenir la filière bio. Bonjour Marie-Pierre Horry.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes l'une des fondatrices de Bocaux des Champs. Alors, vous êtes impliquée dans ce projet depuis plusieurs années, mais le démarrage, lui, est tout récent. Hein. D'ailleurs, l'inauguration de Bocaux des Champs est prévue ce week-end à Bou. La vocation de ce projet, c'est de lutter contre le gaspillage. Vous aviez constaté une urgence de ce côté-là?
Oui, oui, oui. En fait, on a énormément de volumes qui sont pas vendus pour des problèmes de physique, hein, du fruit ou du légume. mais aussi parce qu'on a un décalage entre les pics de production et la consommation de ces produits. Et donc, on avait énormément de volume de fruits et légumes qui étaient jetés. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait justement travailler sur ces volumes-là pour les récupérer, les valoriser auprès des producteurs et puis ben, les transformer en conserve pour pouvoir les consommer sur plus longtemps.
Qu'est-ce que ça donne en chiffres, ce gaspillage ?
Au niveau sur l'ensemble du gaspillage alimentaire, sur l'ensemble de la chaîne agroalimentaire, la production est responsable de un tiers du gaspillage alimentaire.
Et quels sont les fruits, les légumes les plus concernés par ce gaspillage ?
Je pense que ça dépend beaucoup des territoires, puisque en fait, selon les territoires, on va avoir des productions qui sont un petit peu différentes. Dans nos coins, on a pas mal de légumes de plein champ, enfin tout ce qui est courge, courgette. Voilà, donc ça c'est des produits qui doivent être récoltés et consommés finalement assez rapidement, en tout cas traités assez rapidement. On a aussi pas mal de poireaux, donc c'est aussi un produit sur lequel il y a du gaspillage identifié.
Donc vous achetez le surplus aux producteurs et aux productrices bio autour de chez vous et vous en faites des bocaux. L'ambition c'est aussi de soutenir l'agriculture biologique et de proposer des revenus supplémentaires aux producteurs bio.
Oui. Nos objectifs, hein, c'est vraiment de valoriser et de créer une dynamique autour de l'agriculture bio et de l'alimentation bio, en améliorant justement cette rémunération des producteurs d'une part, donc en valorisant davantage de produits que c'est le cas aujourd'hui, et aussi en travaillant sur l'accessibilité de nos produits en termes de prix.
Ça pourrait faire venir de nouveaux producteurs et productrices ? Ça pourrait les inciter à s'installer autour de vous ?
Ce serait bien, on espère. En tout cas, on en a envie. Et je pense que c'est aussi le pari de la commune de Boux qui nous accompagne sur ce projet.
Quels sont vos produits phares à Bocaux des Champs ?
Alors là, on travaille beaucoup la compote pomme-poire notamment. C'est un produit qui marche très bien. On a aussi pas mal de tout ce qui est sauce tomate. C'est plutôt des produits d'été. Et puis après, là, en ce moment, on a une petite tartinade butternut gingembre aussi qui est bien appréciée.
Et puis, vous proposez aussi des ateliers pour le grand public, je crois. Vous avez envie de lutter contre le gaspillage aussi chez les particuliers ?
Oui. Donc, on travaille sur des ateliers d'animation de sensibilisation, alimentation durable et lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc l'idée, c'est de pouvoir un petit peu partager les trucs et astuces autour du gaspillage alimentaire et aussi d'aller un petit peu plus loin éventuellement avec des personnes qui auraient des potagers de taille importante et qui se retrouvent confrontées aussi à ces problématiques de gaspillage parce que quand on n'est pas très nombreux à la maison et que d'un coup, on se retrouve avec des kilos et des kilos de tomates, et maintenant, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc voilà, donc nous, on propose aussi cette solution. Donc apprendre à faire ses conserves et puis pouvoir gérer ses surplus personnels aussi.
C'est difficile d'apprendre à faire ses conserves ?
C'est pas vraiment difficile. Par contre, je pense qu'on a tous des exemples en tête de problématiques sanitaires et de dangers que peuvent représenter justement la mise en conserve. Donc l'idée, c'est d'éviter aussi ces drames.
Il faut vraiment avoir la compétence pour le faire. C'est pas du tout un sujet à prendre à la légère.
Non, pas du tout. Non, c'est un vrai métier.
Comment a été financée cette conserverie ?
Alors, le bâtiment, c'est la commune de Boux qui l'a financé, donc qui est allée chercher des financements pour pouvoir monter ce bâtiment. Et pour tout ce qui est matériel à l'intérieur, là, c'est l'association qui est allée chercher les financements. Donc, il y a des financements publics, on a obtenu des financements notamment de la région. On a obtenu aussi un petit peu de financement de la part du fonds de dotation Biocoop. Et puis ensuite, on a fait appel à l'épargne citoyenne avec une campagne de financement participatif. Voilà. Et puis après, bien sûr, de l'emprunt bancaire.
Et ça vous rend fier, l'aboutissement de ce projet ?
Oui. Alors c'est que le début d'une nouvelle ère là avec l'emménagement dans le bâtiment. C'est vraiment que le début, mais en même temps, c'est vraiment très réjouissant de voir l'engouement qu'il y a autour du projet et de voir que ça y est, on est là, on a ouvert les portes de notre bâtiment et voilà, on va pouvoir enfin aller sur des volumes qui vont être significatifs.
Voilà, ça s'appelle Bocaux des Champs et c'est donc à Boux, dans le Loiret. Merci beaucoup Marie-Pierre Horry.
Merci.
Et bonne journée, à bientôt.
Merci à vous aussi, au revoir.
Merci à toute l'équipe des carnets de campagne, Sophie Hoffmann et Lila Rapoport à la préparation de l'émission, Stéphane Beaufis et Benjamin Wagon à la technique. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire sur le site de France Inter, rubrique carnet de campagne. Vous cliquez sur « Contacter l'émission » et vous signalez des initiatives remarquables, des gens géniaux partout en France, en particulier dans le Cher, en Savoie et en Haute-Savoie. Départements qui sont bientôt au programme puisque, vous le savez, nous suivons à la trace le jeu des 1 000 euros.